France Culture.
Réplique, la question de la natalité avec François Héran et Olivier Rey. L'Institut national de la statistique et des études économiques a révélé il y a quelques jours qu'avec 651 000 décès et 645 000 naissances, le solde naturel est devenu négatif sur l'ensemble du territoire français pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. À mes deux invités, le philosophe Olivier Rey, qui publie Défécondité, ses raisons, sa déraison, et le démographe François Héran, professeur honoraire au Collège de France, je voudrais poser cette simple et abyssale question. Que se passe-t-il? Comment, messieurs, expliquez-vous le déficit démographique français? Olivier Rey.
Je pense que la première chose à signaler, c'est que la baisse de natalité s'observe presque partout dans le monde. Ce n'est pas un phénomène seulement français, c'est un phénomène mondial. Ce que l'on observe aussi, c'est une corrélation très forte entre ce que l'on appelle le développement, le mode de vie moderne, et une natalité faible, voire très faible. Et dans les pays les plus développés, on a d'ores et déjà une fécondité qui est très en deçà de ce qui serait nécessaire pour le renouvellement des générations et qui, en l'absence de flux migratoires en provenance des pays où la population augmente encore, promet une décroissance très rapide de la population. Alors, dans un livre ancien, Une question de taille, j'insistais sur le fait que le bien et le mal tiennent moins à la nature d'un phénomène qu'à son ampleur et à sa vitesse. Les pays européens, il y a deux siècles, étaient bien plus légèrement peuplés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et une baisse tempérée de leur population ne serait en rien une catastrophe. En revanche, sont catastrophiques les taux de fécondité actuels, 1,2 pour l'Italie ou la Pologne, encore en dessous pour l'Espagne. En fait, avec un taux de 1,2 enfants par femme, ça promet non pas une baisse, mais un écroulement à court terme de la population. Avec 1,2 enfants par femme, en une génération, la population se réduit de 40%, et en trois générations, il reste plus en gros qu'un cinquième de la population initiale. Alors là-dedans, il y avait une singularité française, parce que la France, c'est un pays où on a observé dès le XVIIIe siècle une baisse de la natalité. Elle a anticipé ce qui s'est passé plus tard ailleurs, ce qui fait que pendant tout le XIXe siècle, la population française a beaucoup moins augmenté que celle des pays voisins. Et la préoccupation démographique en France est très ancienne, puisque dès les lendemains de la guerre de 1870, il va y avoir de grandes inquiétudes sur la démographie française insuffisante et donc des politiques natalistes qui vont être mises en place de manière très très précoce. Et c'est peut-être cette ambiance nataliste qui explique qu'en revanche, au XXe siècle, la France, au moins après la Seconde Guerre mondiale, a eu des taux de fécondité supérieurs à ce qui s'observait dans les pays voisins. Et jusqu'à une date très récente, encore dans les années 2010, c'était tout à fait honorable. Et puis là, ce qu'on observe depuis 10 ans, c'est un effondrement avec, si la tendance se poursuit, la France va rejoindre les taux très faibles de l'Italie ou de l'Espagne. Alors comment expliquer ce brusque effondrement ? Personnellement, je le verrais comme une extension générale de la singularité française au sein de l'Union européenne, à force d'aligner de plus en plus la France sur ses voisins européens dans tous les domaines. Eh bien, la natalité rejoint aussi ce qui se passait dans les autres pays européens.
François Héran, comment analysez-vous ce phénomène ?
Effectivement, comme l'a dit Olivier Rey, cette chute était prévue, mais il faut toujours décomposer les deux éléments de cette baisse. Parce que la natalité, c'est-à-dire le nombre des naissances par rapport à la population, c'est le produit de deux choses. C'est le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants et c'est la propension des femmes à avoir des enfants. Alors, on peut aussi calculer les taux de fécondité pour les hommes, hein. Je rassure tout de suite les féministes, ça existe. D'ailleurs, l'INSEE, pour la première fois cette année, on ne l'a pas observé, publie aussi les taux de fécondité masculins qu'on peut obtenir dans les enquêtes, hein. Pas à l'état civil, mais enfin, on peut l'obtenir. Donc, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, lui, est voué à baisser, puisque les dernières générations du baby-boom sont arrivées à la fin de l'âge de fécondité, et donc on prévoyait depuis longtemps que, même à comportement égal, c'est ça qui est important, même à comportement de fécondité égal, de toute façon, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants baissait. Cela dit, il y a aussi un changement de comportement, ça c'est clair. Ce changement de comportement a été plus rapide que ce que je pensais. Dans un essai très ancien d'une quinzaine d'années, j'avais essayé de voir si, à politique familiale constante, à comportement de fécondité identique, quand allait venir le moment où un solde migratoire à 100 000, par exemple, allait être plus important qu'un solde naturel. J'avais prévu ça dans une quinzaine d'années. Donc, le changement de fécondité a été plus rapide que prévu. L'explication, là, on rejoint une très très grande difficulté qui est très bien abordée dans un livre que je vous conseille, d'Henri Léridon, qui est un des plus grands démographes français, qui s'appelle « Les théories de la fécondité ». C'est un volume, un recueil qui a été publié par l'INED et qui reprend toutes les grandes théories ou pseudo-théories depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Et l'explication par l'individualisme croissant, elle est très ancienne, et c'est un peu ça le problème. C'est une explication trop générale pour pouvoir être spécifique à un pays ou à une période. Le premier à faire ça, à donner ce genre d'explication, c'est Arsène Dumont, un étrange personnage qui écrit un livre « Dépopulation et civilisation » en 1890. Et là, sa grande explication, c'est ce qu'il va appeler la capillarité sociale, c'est en fait la mobilité sociale. Il explique qu'il y a une force absolument extraordinaire et générale. Tout le monde veut grimper dans la structure sociale, en gros, mais les enfants, c'est un bagage qui vous leste, qui vous alourdit. Et donc, si vous voulez améliorer votre sort, eh bien, vous devez avoir moins d'enfants. Voilà l'explication que donne Arsène Dumont. Plus tard, on a Adolphe Landry, un autre grand personnage tout à fait remarquable, plusieurs fois ministre dans l'entre-deux-guerres, qui a publié en 1934 un livre qui s'appelle « La révolution démographique » et qui, en gros, dit la même chose de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée, parce qu'il est armé mathématiquement beaucoup mieux que Arsène Dumont. Et l'explication, là aussi, c'est l'individualisme. Et donc, on est un petit peu gêné par cette explication parce que chaque période a l'impression d'être plus individualiste que la précédente.
Mais est-ce que c'est pas vrai? D'intensification de l'individualisme.
Oui, mais il y a un très beau texte de Durkheim disant mais chaque période se plaignait de l'individualisme. Vous lisez Cicéron, les lettres à sa famille, c'est très individualiste déjà. Abélard, il y a un grand livre sur l'individualisation au Moyen-Âge. Abélard, c'est l'avènement de l'individualisme. Vous avez le protestantisme qui est évidemment une grande étape. Vous avez les Lumières, etc. Bon, donc chaque époque, parce que les formes du collectif changent. Et les mutations du collectif, l'abandon des formes anciennes des relations collectives, s'est perçu comme la fin du collectif au profit de l'individuel, alors qu'en fait, les formes collectives ont changé. Je crois que c'est ça la difficulté de l'explication par l'individualisme.
D'accord. Est-ce que vous recourez quand même à l'explication par l'individualisme? Il me semble que vous le faites, Olivier Rey, dans votre livre « D'écouter fécondité ».
Le facteur majeur que je vois, c'est le passage qui a été décrit par Ferdinand Tenis du mode de vie communautaire au mode de vie social. Dans une communauté, ce qui est premier, c'est la communauté et les individus existent en tant que membres de la communauté, alors que dans le mode de vie social, ce qui existe en premier, ce sont les individus et la société et le rassemblement des individus. C'est en tout cas ainsi que Tenis conçoit la chose, et on peut voir ce qui se passe au cours des deux derniers siècles comme un basculement massif, hein, du mode de vie communautaire qui avait été celui de l'immense majorité de la population depuis qu'il y a des hommes sur la Terre, à un mode de vie social. Vous voyez, ça va entraîner une très grande différence en ce qui concerne l'accueil des enfants, parce que lorsque l'on vit au sein de communautés, l'arrivée d'un enfant est quelque chose qui est aisément digéré par la communauté, parce que les parents ne sont pas du tout seuls à y faire face. Il y a les parents, mais il y a la famille élargie, il y a les voisins, il y a le village. Et donc finalement, l'enfant est d'emblée intégré à l'intérieur d'une communauté qui s'en charge. Alors que quand se développent des modes de vie très individuels, individualisés. Donc là, je ne parle pas, si vous voulez, forcément d'individualisme, mais de mode de vie individualisé. Quand on a un couple, pour autant que le couple soit à peu près stable, ce qui est de moins en moins le cas, justement aussi à cause de la pulvérisation des communautés, l'arrivée d'un enfant, lorsqu'il n'y a que les parents face à lui, c'est un bouleversement radical. Et donc là, on comprend qu'effectivement, les gens y réfléchissent à deux fois avant d'avoir un enfant.
Oui, François Héran, s'il vous plaît. Les économistes se sont beaucoup intéressés à ça. Souvent, d'ailleurs, la théorie de la fécondité a été faite davantage par les économistes que par les démographes eux-mêmes, qui sont toujours beaucoup méfiés des théories. C'est toute la problématique du coût de l'enfant. Une des explications des taux de fécondité très très bas dans des pays comme le Japon, la Corée, etc., c'est le formidable coût de l'éducation dans ces pays-là. L'investissement éducatif est considérable, et donc l'idée qui a été théorisée par Gary Becker, prix Nobel de 1990, je crois, mais qui a élaboré sa théorie dans les années 60, c'est que il y a un arbitrage qui est fait entre la qualité et la quantité des enfants, et donc on va réduire l'investissement. Mais déjà, Arsène Dumont dit la même chose. Et déjà, Landry dit la même chose. C'est ça qui est assez fascinant, c'est la récurrence des explications qui peuvent prendre une forme économique ou une forme plus sociale. Alors maintenant, le coût de l'enfant. C'est vrai que nous, à l'INED, par exemple, on a pendant longtemps observé de très près des communautés rurales en Afrique, au Mali, au Sénégal. Et c'est vrai que c'est très frappant de voir comment le coût de l'enfant, en quelque sorte, est dilué, est réparti. Un enfant n'a pas un seul père, il a plusieurs pères, qu'il appelle aussi d'ailleurs souvent père, etc. Enfin bon, c'est ce que j'avais étudié quand je m'intéressais aux structures de parenté. Mais on voit même en Afrique comment des couples, peu à peu, vont quitter le village, s'établir un peu à la bordure du village, c'est ça qu'on observe au Mali, et cette fois s'intéresser vraiment à l'enfant directement, ce sera leur enfant et plus celui de la communauté. Donc cette évolution, on l'a suivie aussi de très très près en Afrique. Elle est quand même accomplie en Europe depuis très très longtemps. Déjà, au XVIe, XVIIe siècle, c'est la famille nucléaire qui domine. Donc l'explication de la nucléarisation de la famille, la nucléation, là encore, elle est trop générale, elle est pas suffisante. Tenis a été très critiqué par Durkheim, justement, pour son côté binaire et très simple. Et ce que montre Durkheim, à mon avis, c'est beaucoup plus astucieux que Tenis, c'est qu'à mesure que l'individu progresse, est reconnu en dignité, en égalité, etc., eh bien, les liens sociaux aussi se diversifient et se multiplient. Il n'y a pas une contradiction entre la multiplicité des liens collectifs et l'existence de l'individu. La division du travail fait que, de toute façon, vous allez dépendre beaucoup plus encore du collectif que ce n'était le cas auparavant.
Oui, mais ce n'est pas la même forme de collectivité. Et puis surtout, quand même, moi j'en reviens à cette explication par l'individualisme. Vous citez un exemple incroyable dans votre livre, Olivier Rey. Vous parlez de l'ethnologue et psychiatre Marika Moïseff. Elle constate que, depuis quelques années maintenant, la fertilité féminine tend à être traitée comme une maladie pour laquelle la femme doit se soigner grâce à la pilule contraceptive. Et c'est confirmé par un article récent du Journal of Medical Ethics, intitulé « La grossesse est-elle une maladie ?» sont énumérées les raisons de répondre positivement à cette question. Comme une maladie, la grossesse affecte la santé de la personne enceinte, entraînant une série de symptômes allant de l'inconfort à la mort. Comme une maladie, la grossesse peut être traitée médicalement. Comme une maladie, la grossesse a pour cause un agent pathogène, un organisme extérieur qui envahit le corps de l'hôte. Donc c'est tout à fait extraordinaire. C'est l'individu vraiment réduit à lui-même et l'enfant comme une sorte d'agent pathogène. Ça, c'est l'apothéose de l'individualisme. L'individu seul avec lui-même. Et ça donne le slogan « No kids » qui se répand de nos jours, Olivier Rey.
Oui, oui, et pour enchaîner aussi sur ce que disait François Héran, hier j'étais dans un débat avec mon interlocutrice qui avait évalué à 30 000 heures ce que lui avait coûté le fait d'élever un enfant. On voyait, quand on rentre aussi dans ce type de décompte, ce n'est pas extrêmement favorable à l'accueil d'enfants. C'est-à-dire que là, on a aussi une forme d'inversion. Avant, on avait des enfants et puis ensuite, on faisait ce qu'il fallait pour les élever, alors que maintenant, on va faire énormément de calculs pour savoir si finalement avoir un enfant c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Donc, autrefois, les parents avaient des enfants et puis après, ben, on se logeait comme on pouvait dans l'espace dont on disposait. Alors que maintenant, on va calculer le nombre de mètres carrés qu'on a et bon, si on n'en a pas suffisamment, ben, on va différer le fait d'avoir des enfants, voire on ne va pas en avoir du tout. Donc en fait, il y a une forme de... Aussi, je pense qu'il va de pair avec ce qui était évoqué tout à l'heure, de reconnaissance sociale. Comme disait Hegel, à partir du moment où on a à manger et on a un toit, ce qui anime les êtres humains, c'est la reconnaissance par les autres. Et en fait, pendant très longtemps, le fait d'avoir des enfants était quelque chose qui vous donnait un statut à l'intérieur de la communauté dans laquelle vous viviez. Alors qu'aujourd'hui, ce qui vous donne d'abord un statut, c'est un certain degré de consommation. Et donc, à partir du moment où les enfants pourraient mettre en danger votre niveau économique, effectivement, ils peuvent devenir, comme vous le disiez, un handicap économique dont il faut se garder.
Mais alors, justement, François Héran, vous récusez l'explication par l'individualisme.
Je la trouve trop générale.
Voilà, c'est quoi l'explication pour notre situation actuelle? Une explication plus singulière.
Si vous voulez, la question, c'est... Bon, il y a maintenant énormément d'études qui ont été faites sur les différents facteurs qui expliquent les niveaux de fécondité, la réduction de la fécondité. Le document de loin le plus complet, c'est celui que l'OCDE a publié en 2024 dans sa vision de la réalité sociale. C'est un document qui paraît annuellement avec des études spécifiques. Et il y a là les meilleurs chercheurs qui ont travaillé sur la question, énumèrent toutes les causes possibles. Alors, on a évoqué le prix de l'éducation, qui est effectivement une certaine capacité accrue des parents à calculer, mais déjà Landry, dans les années 30, disait que c'était la montée de la rationalité, du calcul rationnel, qui expliquait la baisse de la fécondité. Il y a la question du logement, qui est considérable, puisque effectivement, l'accès au logement est beaucoup plus coûteux. Le prix du logement a augmenté de façon très importante dans la plupart des pays de l'OCDE, donc l'OCDE insiste beaucoup là-dessus. Mais il n'y a pas seulement le calcul du coût que représente un enfant, il y a la façon dont ce coût est réparti entre les conjoints. Les Japonaises, les Coréennes ne sont pas contre les enfants. Elles sont contre le sort qu'il aurait fait dans le mariage quand il s'agit d'élever les enfants. Et ça n'est pas la même chose. Et donc, il y a toute une discussion pour savoir, est-ce que les pays qui traitent le plus possible, de façon égalitaire, les conjoints, qui aident aussi bien les pères que les mères, pour que les pères puissent aider les mères, etc. Enfin bon, est-ce que le taux de fécondité est plus élevé? Alors pour l'instant, c'est quand même ce qu'on a observé. C'est-à-dire que dans les pays scandinaves, ou dans des pays comme le Luxembourg, il y a une meilleure résistance à la baisse de la fécondité. Mais ça n'est pas si simple, parce que chaque fois qu'on trouve comme ça une loi, un peu un début de loi ou d'explication, il y a des contre-exemples qui surgissent aussitôt. Donc la répartition du coût entre les conjoints, le logement, le coût de l'éducation, ça fait beaucoup de facteurs et il est très difficile de les mettre ensemble et d'essayer de peser séparément le poids de chacun de ces facteurs. L'opération statistiquement n'est pas simple. Récemment, une étude qui a eu beaucoup de publicité est faite par un jeune chercheur canadien a montré qu'aux États-Unis, la baisse de la fécondité serait due pour 40% au prix du logement. Mais en fait, le coût du logement, la position des personnes dans le marché du logement est elle-même liée à bien d'autres variables. Et donc, dissocier tout ça est extrêmement difficile.
Olivier Rey, dans votre livre, vous citez très heureusement, à mes yeux, Hans Jonas, le principe responsabilité. Notamment ce chapitre, l'enfant, objet élémentaire de la responsabilité. Et la phrase suivante, à propos du nouveau-né, le nouveau-né dont la simple respiration adresse un « on doit » irréfutable dans l'entourage, à savoir qu'on s'occupe de lui. Et là, j'en reviens à l'individualisme, il y a une sorte de conflit qui surgit entre liberté et responsabilité. C'est-à-dire que cette responsabilité n'apparaît-elle pas comme un obstacle à la liberté, et même quand on a des enfants, parce que on voit souvent dans la rue des parents qui accompagnent leurs enfants à l'école ou qui vont les chercher et qui sont accrochés à leur portable, alors que leurs enfants auraient sans doute beaucoup de choses à leur dire. On voit des repas, par exemple, dans les restaurants où on colle les enfants devant un écran pour n'avoir pas à converser avec eux. Donc, si vous voulez, la responsabilité dans l'éducation n'est pas toujours assumée et quelquefois ce refus d'assumer va jusqu'au « no kids ». Olivier Rey.
Oui, oui. Le passage que vous avez cité de Anciona, c'est vraiment extraordinaire. Il a recours au nourrisson pour contester le grand partage qui s'est opéré dans la pensée moderne entre d'un côté l'être, de l'autre côté le devoir-être, la is-out distinction chez Hume, enfin, qui est le premier philosophe à vraiment la formaliser clairement. Et donc on va avoir d'un côté des questions de fait que la science va étudier, et puis de l'autre côté, on a des questions de morale, mais qui sont complètement déconnectées des questions de fait. Le bien et le mal, c'est des catégories qui n'ont rien à voir avec la manière dont les choses sont physiquement agencées. Anciona dit, moi je donne un contre-exemple, c'est le petit enfant, parce qu'il faut vraiment être fou pour, dans un petit enfant, dissocier d'un côté un tas de cellules vagissantes, et de l'autre côté, un devoir moral que j'aurais de m'occuper de lui. C'est de l'être même du petit enfant que sourd la demande que l'on s'occupe de lui. Peut-être que là, il y a une dimension philosophique à la défécondité moderne. C'est le fait de se sentir très démuni face à un petit enfant où se conjoint précisément l'être et le devoir-être, alors qu'on est tellement habitué à une disjonction totale entre les deux. Il y a une sorte, pour un certain nombre de personnes, de saisissement devant cette chose incongrue qui va, dans un premier temps, susciter une réaction de « pas pour moi ».
Oui, pas pour moi.
Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, effectivement, oui. Et j'aurais envie de la généraliser. Alors d'abord, c'est vrai que ce qui est propre à l'enfant, c'est à la fois son extraordinaire vulnérabilité et en même temps la puissance extraordinaire de protestation, de contrainte, de réclamation qu'il est capable de faire. Enfin, nous avons tous fait l'expérience, cette double expérience, vulnérable et en même temps insistant et prenant. Il y a un problème intéressant qui est un problème à la fois philosophique et sociologique, c'est est-ce que dans la société moderne, on est capable de faire quelque chose pour rien ? Est-ce qu'on est capable d'agir de façon totalement désintéressée ? Il y avait un sociologue américain qui avait fait un grand livre « Something from nothing ». Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans calcul sans... Et il prenait comme exemple, évidemment, la famille, puisque la famille est une des entités où, voilà, par exemple, on est capable d'aider ses vieux parents, même si on n'espère pas l'héritage. C'était le grand problème de Bourdieu, c'est que lui considérait que les relations familiales avaient pour modèle l'oncle à héritage que l'on fréquentait à cause de son héritage. Je pense que c'est tout à fait faux et qu'en réalité, bien entendu, la famille est un des domaines, mais pas le seul, où on est capable de faire quelque chose pour rien de façon totalement désintéressée parce que l'autre vous interpelle. Alors, est-ce que ce sentiment-là est en perte de vitesse, etc. Il faudrait des enquêtes psychologiques assez fines pour pouvoir le mesurer. Il y a quand même des enquêtes sur les valeurs, qui sont assez approfondies, mais qui ne vont peut-être pas jusque-là. Et ce serait intéressant, effectivement, de poursuivre dans cette direction.
Donc, nous avons essayé d'expliquer plus ou moins bien le phénomène. Interrogeons-nous sur les solutions. Une politique nataliste a-t-elle encore un sens ? Parce que la gauche, ou une partie de la gauche, dénonce la moindre proposition nataliste comme un retour à la loi sur la protection des naissances de Vichy, sinon même comme une utilisation étatique du ventre des femmes. C'est une formulation de Sandrine Rousseau. Et quand le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin a évoqué l'importance d'avoir plus de bébés de souche européenne, l'Humanité a titré « le projet nataliste d'extrême droite ». Natalisme, extrême droite, ça semble aller de pair. Comprenez-vous cette critique ? Et ma question fondamentale, c'est celle-ci. Peut-on, aujourd'hui en France, mener une politique nataliste ? Qu'est-ce que ça voudrait dire, Olivier Rey ?
L'assimilation d'une politique nataliste à Vichy, c'est quand même avoir une très très courte mémoire, parce que comme je l'ai dit, le souci démographique en France est apparu dès les lendemains de la guerre de 1870, puisque au XIXe siècle, la population de la France a été multipliée par 1,7 quand celle de l'Allemagne a été multipliée par 6. Évidemment, ça a changé beaucoup les rapports de force en Europe, et Napoléon était capable de faire la guerre à l'Europe entière. Et au XXe siècle, c'est l'Allemagne qui pouvait faire la guerre à l'Europe entière. Je cite en exergue du tract chez Gallimard là, un article d'Émile Zola à la toute fin du XIXe siècle où Émile Zola était horrifié par la dénatalité française. Et on ne peut pas dire que Zola soit un parangon de la droite. Et en fait, ce qui s'est passé aussi avec Vichy et son slogan « Travail, famille, patrie », c'était pas un slogan qui a été inventé par Vichy, c'était quelque chose qui a été repris et qui était imaginé comme étant le plus consensuel possible dans un pays traumatisé par la défaite. Donc, renvoyer éternellement les choses à Vichy, ça me semble quand même pas très intéressant. Mais,
alors, je renchéris et je dirais même qu'une des grandes particularités de la politique familiale française, c'était son caractère consensuel et son caractère permanent, sa continuité. Il y a beaucoup de pays en Europe où, au gré des changements de régime, la politique familiale change. En France, elle a été quand même essentiellement bâtie un peu avant la guerre par des gens comme Alfred Sauvy, très difficile à classer, hein. Et puis surtout à la Libération, c'est là que le plus gros de la politique familiale est mise en place. Et elle était consensuelle. Je vois que par exemple, lorsqu'il était question de mettre sous condition de ressources une partie de la politique familiale, une petite partie à des conditions de ressources très élevées, la CGT était contre, par exemple. Donc c'est justement une des grandes caractéristiques de la politique familiale française, d'avoir été assez consensuelle entre gauche et droite. C'est assez récemment que c'est devenu un objet de débat politique. Et puis, il faut quand même rappeler une chose qui est très très importante, c'est que l'effort de la politique familiale française, il est considérable. Il est considérable puisqu'aujourd'hui encore, et là c'est tout, il faut s'en référer à l'OCDE, nous sommes des 37 pays de l'OCDE, celui qui consacre le plus de moyens à la politique familiale. 3,5 points de PIB, les États-Unis c'est juste un point, l'Allemagne c'est deux et quelques. Nous sommes de loin le pays qui dépense le plus pour soutenir les familles. Quand j'entends certaines polémiques récentes, j'ai l'impression qu'on aurait, en quelque sorte, abandonné la politique familiale, que c'est la faute à X, à tel ou tel président, etc. Enfin, il faut avoir un peu un sens de la continuité historique pour pouvoir y revenir. Et se dire que c'était justement que la confiance des familles dans la politique familiale repose beaucoup sur la continuité de la politique familiale et son caractère fortement consensuel et son niveau, bien sûr.
Alors, je citerai la phrase de Zola en exergue de votre livre, Olivier Rey, parce qu'elle est saisissante. Lorsque sur un trottoir, on rencontre une mère suivie de deux ou trois garçons et d'autant de filles, on rit. Cela semble comique, presque inconvenant. Il n'y a que les animaux pour se reproduire de la sorte. Voilà, donc, voilà.
Mais c'est dans un article qui est titré « Dépopulation » et dans lequel Zola s'inquiète de la dépopulation. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, Zola a écrit un livre qui s'appelle un roman, assez indigeste, il faut le dire, mais qui s'appelle « Fécondité ».
Oui, « Fécondité ».
Où il fait vraiment l'apologie des grandes familles.
Justement, mais...
Des énormes familles.
Tout à fait illisible de nos jours, effectivement, c'est étrange. Ouais.
Mais pour combler cette défécondité, il semblerait que... Une politique nataliste, aussi volontariste soit-elle, ne suffira pas, notamment selon vous, François Héran, dans votre livre « Le temps des immigrés ».
15 ans, oui.
Oui, mais bon, je ne pense pas que vous le reniez aujourd'hui. Vous dites que le vieillissement de la France se poursuivra, le nombre des décès a toute chance d'excéder celui des naissances, donc l'actualité vous donne raison, et la migration deviendra en tout état de cause le principal moteur de la dynamique démographique.
Oui, alors c'est ce qui était déjà le cas dans la plupart des pays européens, chez tous nos voisins, c'était déjà le cas il y a 15 ans, et maintenant nous rejoignons effectivement la cohorte de tous les pays européens. Alors, je ne veux pas dire que la migration doit être la solution à la dénatalité. En réalité, quand on regarde notre histoire, il y a très peu de moments, il y a trois moments où vraiment les autorités conçoivent une politique de la migration qui serait une politique démographique. 1927, C'est une grande époque, 1927, c'est la grande loi de naturalisation, qui est la loi la plus généreuse qu'on ait jamais eue sur la naturalisation, puisqu'il suffisait de 4 ans pour pouvoir demander sa naturalisation, et elle est entièrement motivée par la dénatalité, par la crise démographique, etc. Et quand vous relisez les textes, tous les débats à l'époque, et il y avait un consensus entre les industriels, les syndicats, la gauche, la droite, il y a l'idée qu'il faut faire venir des familles productives avec enfants, il faut une migration de peuplement pour que la natalité se redresse. Ça, c'était 1927. Et puis, Vichy va ensuite défaire cette loi de naturalisation, et c'est le grand livre de Claire Zalk sur le sujet. Deuxième épisode tout à fait étonnant, qu'on a complètement oublié, Alfred Sauvy, fin 1945, il vient d'être nommé directeur de l'INED par le professeur Debré et par le général de Gaulle. Il fait un article dans le premier numéro de la revue Population, le tout premier numéro, qui est la revue de l'INED, de l'institut qu'on vient de lui confier, sur les besoins de la France en immigration. Et là, il ne connaît pas encore l'ampleur du baby-boom. Il faudra attendre 1947 pour savoir que le baby-boom existe et a changé la donne. Donc, il ne le sait pas encore. Et il dit, il faut faire venir des migrants pour établir l'équilibre des générations. Rétablir l'équilibre, c'était sa grande formule. Et il va jusqu'à proposer 5,9 millions de migrants pour un pays qui avait 40 millions d'habitants à l'époque. Si vous faites le calcul, en proportion, c'est 13 fois plus que ce que Angela Merkel a fait en faisant venir, en acceptant l'arrivée de 800 000 immigrants chez elle. 13 fois plus. Il y avait 800 000 migrants, Wirtschaftswunder, 800 000 migrants pour 80 millions d'habitants, alors que ce que les 5 millions de migrants voulus par Sauvy, c'était 13% de la population en plus. Donc c'était un migrant boom qu'il voulait planifier, qui aujourd'hui nous paraît mais totalement extravagant, qui n'a eu aucune suite, parce que d'abord le plan était tout à fait extravagant, mais qui en même temps a été complètement oblitéré par cet événement totalement inattendu, toujours inexpliqué, j'insiste, qui est le baby-boom. Car si vous lisez par exemple la conclusion d'Henri Léridon dans ce grand livre sur la théorie de la fécondité que je recommande, Léridon conclut en disant que on ne dispose toujours pas, à ce jour, d'explications du baby-boom. On ne sait toujours pas pourquoi, dans un certain nombre de grands pays occidentaux, on a eu, imaginez quand même, qu'en 1946, par rapport à 1945, tout d'un coup, en une seule année, 200 000 naissances de plus. C'était hallucinant. Et on n'en avons toujours pas l'explication, parce que politique familiale ou pas politique familiale, ça ne jouait pas, et on a des contre-exemples là encore, et ça a duré chez nous, nous avons eu un baby-boom très long qui a duré jusqu'au milieu des années 65, 74 si on tient compte de la seconde génération nombreuse qui a poursuivi. Donc, et cet épisode de Sauvy, il est très bref. Et quand aujourd'hui, la réputation de Sauvy, c'est d'être un grand nataliste, et l'extrême droite notamment voue un culte à Sauvy, et quand elle évoque cet épisode du grand plan de Sauvy sur le migrant boom, elle élude la question, parce que c'est quand même très gênant dans la biographie du personnage d'avoir cette idée-là. Donc, mais ça, ce sont des épisodes très rares. Vous avez un autre exemple de politique démographique, et je termine là-dessus, c'est Michel Debré. Michel Debré, ancien Premier ministre, député de La Réunion, qui dit « mais l'excédent démographique de La Réunion, il faut le déverser dans le désert français, dans les campagnes françaises ». Et cette horrible histoire de ces enfants arrachés aux familles pauvres de La Réunion, qui ont été expatriés vers le cœur de la France. Et ça, c'était une politique migratoire de type démographique. Les politiques migratoires, elles sont soit démographiques, soit économiques. Ce sont deux variantes de l'utilitarisme, soit s'appuyant sur les droits, soit identitaires. Ce sont au fond les quatre formules, les quatre styles de politique migratoire qu'on a. La politique démographique des migrations, elle est très rare.
Alors, il semblerait quand même que nous vivions aujourd'hui un migrant boom, 500 000 nouveaux arrivants par an, sans compter des clandestins. Et surtout, j'entends cette argumentation, c'est-à-dire, pour payer nos retraites, il faudra bien une nouvelle force de travail. Pour augmenter la population française, il faudra des immigrants. Donc, je vous pose la question, est-ce la solution ou bien l'immigration est-elle devenue un problème supplémentaire pour la France ? Olivier Rey.
Je dirais qu'elle est les deux à la fois, mais la France s'est déjà massivement désindustrialisée. Ce qui fait qu'une très grande partie de ce que nous consommons est désormais produit ailleurs, avec un déséquilibre toujours plus abyssal de la balance commerciale. Alors, est-ce qu'il faut, après, s'en être remis à d'autres pour produire nos biens de consommation, s'en remettre également à d'autres pour produire les enfants ? Bon, à ce degré de dépendance, on en arrive vraiment au stade terminal de la déchéance. On ne produit pas ce qu'on consomme, et même pour les enfants, on est obligé de faire appel à d'autres. Alors, par ailleurs, l'immigration peut être une réponse au dépeuplement de l'Europe, en particulier sur le plan économique. En revanche, pour ce qui est de la continuation de l'Europe en tant qu'Europe, là, ça me paraît beaucoup plus douteux, particulièrement en France, parce que la question n'est pas seulement celle de l'immigration en soi, mais de l'immigration telle qu'elle est. Personnellement, je prends à titre d'exemple les propos tenus par le député LFI Carlos Martins Bilongo, très récent, qui affirmait lors d'un entretien « Ce que nos parents et nos grands-parents ont enduré de la part des Français, on ne va pas le laisser passer. On va leur montrer qu'on est plus nombreux et qu'on est plus intelligents. Si on fait plus de gosses qu'eux, tant pis pour eux. » Bon, alors, il se trouve que M. Bilongo est né en France, de parents d'origine congolaise et angolaise. Alors, je me demande d'ailleurs pourquoi il n'est pas allé au Portugal ou en Belgique pour faire payer aux Belges et aux Portugais les choses plutôt. Bon, il se trouve que c'est aux Français. Bon, il a la nationalité française, il est élu à l'Assemblée nationale de la République française, mais il parle des Français comme de personnes dont il faut tirer vengeance. Et d'abord, grâce au nombre. Et s'il le fait, c'est que cela est porteur auprès de ses électeurs du Val d'Oise, auprès desquels il fait des scores extraordinaires, il est élu député au premier tour. Et là, effectivement, on se dit, bon, s'il faut sauver la France avec des gens qui sont là pour faire payer, tirer vengeance des Français, bon, peut-être que l'entité, l'étiquette France demeure, mais ce qu'il y a dessous, je ne vois pas très bien ce que ça a encore à voir avec la France.
Bon, écoutez, c'est un cas totalement aberrant que vous signalez là.
Ça n'est pas un cas aberrant.
C'est donc la France insoumise, quand même.
Il est député. Il n'a absolument pas été repris par la direction de la France insoumise.
Oui, ça n'est pas toute la France insoumise, je ne pense pas. Là, il faudrait voir, je ne suis pas spécialiste de la France insoumise, et surtout, ça ne traduit pas un mouvement de pensée et d'opinion important en France. Il faudrait quand même rappeler quelque chose. Alors, je le rappelle dans deux livres qui vont paraître au mois d'avril, que nous ne sommes pas aux avant-postes de l'immigration en Europe, mais absolument pas.
Oui, mais c'est pas
Attendez, vous permettez que je termine quand même. Le problème, il y a d'abord un problème quantitatif, il y a un problème qualitatif. Commençons par les quantitatifs. À entendre les débats actuels, on a l'impression que nous serions le premier pays d'Europe en termes de migration, de demande d'asile. Absolument pas. Je rappelle que quand on regarde les données de l'OCDE, des Nations Unies, etc., nous sommes au 17e rang de l'Europe par la proportion d'immigrés dans notre population. Nous sommes au 17e.
Mais François Héran, il y a quand même, une fracture française. Oui, les banlieues se vident du peuple d'origine. Les quartiers populaires sont des quartiers où le peuple d'origine française ne vit plus.
Je vis depuis 40 ans dans un quartier populaire. Je ne suis pas un bobo, contrairement à ce que souvent on soupçonne.
Quelle est la proportion des Français d'origine française dans le quartier où vous vivez ? Vous dites un quartier populaire.
C'est une commune de la périphérie nord de l'Île-de-France. Et les immigrés, je connais ça parce que j'ai été dans la commission électorale qui surveille l'arrivée de nouveaux électeurs. On est à peu près à 60% de personnes d'origine française, 40% de personnes d'origine étrangère. Et ça se passe bien. Je veux dire, les personnes que je vois, que je croise dans les marchés, dans la rue, etc., font partie du peuple français, sont françaises pour la plupart. Et je voudrais dire une chose qui est quand même très importante. Important, c'est que l'opposition majorité-minorité, l'opposition binaire, mais est tout à fait stupide. Il y a un chercheur américain que je cite dans mon dernier livre, qui a dit, mais autrefois, aux États-Unis, c'est un modèle très intéressant, les Juifs ne faisaient pas partie de l'identité américaine, les Irlandais n'en faisaient pas partie, les catholiques n'en faisaient pas partie. Et aujourd'hui, sauf quelques suprémacistes, bien sûr, il y a toujours un retour de bâton, toutes ces minorités font absolument partie intégrante. Mais c'est la même chose chez nous. Les gens qui ont des noms flamands, qui ont des noms polonais, qui ont des noms italiens, etc., sont maintenant considérés comme faisant partie de la société française. Madame Abdoulmalak, ministre de la Culture, personne ne doutait de sa francité. Et il va falloir s'habituer au fait que nous aurons maintenant des patronymes de toutes origines, de tous les continents, y compris de l'Afrique. Et la donnée fondamentale, et j'insiste là-dessus, c'est ce qui a été révélé par l'INED et l'INSEE en 2023, c'est que, certes, nous avons 31% de la population de la France, la population adulte, qui est liée à l'immigration sur une, deux ou trois générations, c'est-à-dire qui est soit immigrée elle-même, soit enfant d'un ou deux immigrés, soit petit-enfant de un, deux, trois ou quatre immigrés. Mais nous avons seulement 5% de ces adultes qui ont leurs quatre grands-parents immigrés. Il n'y a pas de contradiction entre les 31 et les 5. Ça veut dire que dans l'intervalle, au fil des générations, eh bien, les populations se brassent, les unions mixtes progressent au fil des générations. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations ne se séparent pas, elles se rapprochent. Et ce résultat, ce n'est pas mon idéologie qui le programme, c'est un fait objectif structurel. Et tant qu'on n'a pas ce fait structurel à l'idée, tout ce qu'on raconte sur l'intégration, il n'y a pas l'intégration, le séparatisme, tout ça, eh bien, à mon avis, ne vaut pas grand-chose.
Ça ne vaut pas grand-chose. Et les territoires perdus de la République ne sont pourtant pas une invention. Et dans ces territoires perdus de la République, comme le disait Georges Bensoussan, les deux injures les plus répandues sont sale juif et sale français. Donc tout ça existe aussi. Et il y a même d'ailleurs Édouard Philippe qui a parlé à propos des changements de population à l'intérieur des banlieues d'une alien intérieure. C'est-à-dire les juifs ne sont plus les bienvenus pour la plupart d'entre eux en Seine-Saint-Denis.
Il y a, là, justement, il y a un frais structurel aussi qui est assez frappant. C'est que quand Emmanuel Macron avait émis l'idée de rétablir une forme de service national universel, en fait, cette idée très vite s'est révélée totalement inapplicable pour la seule raison, par exemple, qu'il est impossible aujourd'hui de faire chanter la Marseillaise. Bon, d'ailleurs, on voit très bien ce qui se passe au Stade de France quand il y a un match France-Algérie. En fait, il est devenu impossible en France d'organiser un match France avec un pays d'Afrique du Nord. Et il est même impossible, donc, de faire chanter à une certaine grande proportion de jeunes la Marseillaise. Donc, dans ce contexte-là, son service militaire, évidemment, mais il a été obligé de l'abandonner et de réserver ça à des volontaires.
Je voudrais justement embrayer sur une autre question, mais qui a à voir avec l'évolution démographique française, le droit à la continuité historique. Parce que vous dites que c'est un mirage, François Héran, dans un de vos livres, je crois, « Immigration, le grand déni ». Or, ce droit à la continuité, il a été pensé, élaboré par Ortega y Gasset dans son livre « La révolte des masses ». Il dit que c'est le droit fondamental de l'homme. L'homme n'est jamais un premier homme. Il ne peut commencer à vivre qu'un certain niveau de passé accumulé. Voilà son seul trésor, son privilège, son signe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il cite l'Angleterre. Ce peuple, dit-il, circule dans tout son temps. Il est véritablement seigneur de ces siècles dont il conserve l'active possession. Est-ce que c'est encore vrai dans l'Angleterre d'aujourd'hui, dans la Londres d'aujourd'hui? Et est-ce que un peuple historique n'a pas le droit de demeurer lui-même, de persévérer dans son être, justement?
Et donc, tous les peuples européens, absolument tous,
et nous,
plus que tout autre, nous avons subi toutes sortes de métamorphoses, de chocs, de révolutions. Si vous lisez, par exemple, je sais pas, moi j'ai lu il y a pas très longtemps, Juvénal des Oursins, la fameuse chronique qui se passe aux alentours de 1500, un peu avant 1500, un peu après 1500, qui est une des grandes chroniques de l'époque. Mais les populations sont terriblement éprouvées, sans cesse déplacées. C'est la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, qui est en même temps une guerre européenne. L'idée qu'il y aurait une France millénaire immobile, sans immigration, est absurde. Elle est contraire aux réalités historiques. Le décompte des étrangers, au sens moderne du terme, commence en 1851 sous Napoléon III. Mais bien avant, la France était un patchwork. Un patchwork qui a été de nous avons attrapé, annexé, sans jamais l'accord des habitants, toute une série de provinces.
Mais c'était des provinces, c'est pas tout la même chose.
Eh bien, si.
L'immigration massive a commencé la deuxième moitié du 19e siècle.
Il y a une continuité extraordinaire entre l'exode rural et l'immigration extérieure. L'immigration extérieure est un prolongement de l'exode rural. Il faut relire un très grand livre qui est celui d'Eugen Weber, l'historien américain, qui s'appelle La France des terroirs, dont tout le premier chapitre. chapitre donne une soixantaine, je dis bien une soixantaine de témoignages sur la façon dont les Français du centre percevaient tous les Français de la périphérie. C'était des sauvages, c'était des barbares, ils parlaient très mal le français. Quand ils venaient à Paris, c'était exactement les discours qu'on a aujourd'hui contre les étrangers. L'idée que la France était homogène, qu'on était chez soi, parce qu'il n'y avait pas d'immigration pendant des siècles de Vercingétorix à nos jours, est une idée d'une naïveté confondante et qui suppose une très grande ignorance historique. Alors vous citez Ortega y Gasset, qui est quand même un essayiste très généraliste. Moi, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Andalousie pendant 3 ans. Je peux vous dire que, avec les souvenirs de la guerre civile, la conquête de l'Andalousie par l'Espagne du Nord, etc., les rapports avec le Maroc, c'est extrêmement compliqué. Là, parler de continuité historique n'a absolument aucun sens dans un pays pareil. On voit le fractionnement de l'Espagne actuellement. Il n'existe aucun peuple européen dont on puisse dire qu'il a conservé une homogénéité ethnique, une homogénéité de peuple des origines à nos jours, ça n'existe pas. Il faut construire notre identité autrement. Il faut imaginer que les minorités puissent se majoriser, c'est-à-dire entrer pleinement dans la majorité, comme l'ont fait les Flamands, les Juifs, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, etc. Et il faut que ce processus continue. Il n'est pas simple. L'intégration est un défi. Je ne dis pas que tout est bien dans le meilleur des mondes, comme on l'accuse parfois. C'est une accusation ridicule. Je dis simplement que oui, il y a un défi d'intégration. Il faut y travailler. Et c'est pas en rêvant d'un monde immobile, d'un passé millénaire qu'on y arrivera.
Bon. Nous allons poursuivre la discussion en revenant à la naissance. J'aime mieux ce mur encore que celui de natalité, parce que vous citez dans votre livre une vétérinaire, Olivier Rey, Hélène Gâteau, qui a publié un livre au titre programmatique « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ?» Et donc, vous dites qu'il y a les deux tendances dans la société, le « no kid » et le « pet parenting », considérer son animal comme un enfant. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et moi, j'adore les chiens, mais en quoi avoir un enfant, ce n'est pas la même chose, Olivier Rey?
Ah oui, c'est effectivement. Quand l'enfant vient au monde, il est totalement démuni, et c'est même une spécificité de l'espèce humaine que d'avoir des enfants qui vont être aussi longtemps dépendants des adultes pour pouvoir se débrouiller dans le monde. Mais d'un autre côté, en fait, tout l'enjeu d'une éducation, c'est de faire en sorte que cet enfant quitte son père et sa mère et mène ensuite sa vie comme il l'entend. Alors qu'un chien, il atteint très vite sa taille adulte et puis ensuite, il n'y a plus du tout d'évolution et il n'est pas fait du tout pour quitter le foyer. Enfin, c'est ridicule, ça n'a strictement rien à voir. Cela étant, on peut quand même comprendre quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, nous arrivons au monde avec aussi des facultés naturelles. Et parmi ces facultés naturelles, nous avons une faculté naturelle absolument extraordinaire qui est que nous partageons avec tout le vivant qui est de mettre au monde des enfants. La reproduction, ça fait partie même de la définition de la vie. Et par ailleurs, nous avons la faculté d'élever des enfants. Je conteste justement le discours qui met en regard d'un côté le développement personnel et de l'autre côté le fait d'avoir des enfants, comme si le fait d'avoir des enfants et de les élever ne faisait pas partie du développement personnel. C'est l'usage d'une faculté absolument fondamentale. Mais les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, elles se retrouvent avec des facultés qui sont inemployés, en particulier des facultés d'amour envers une créature qui dépendrait de nous. Et alors donc c'est pour ça que, de même qu'à partir du moment où nous passons des journées entières devant un écran, ensuite les gens vont courir sur les quais, font du jogging à la fin de la journée, et bien là, comme il n'y a pas d'enfant, et bien donc on va prendre un chien. Et moi j'aime beaucoup les chiens, et je n'ai rien à dire contre les chiens. En plus, les chiens et les enfants ensemble, ça va très très bien, mais remplacer un enfant par un chien, c'est monstrueux.
C'est monstrueux. Alors, une dernière question. Vous aviez parlé, Olivier Rey, tout à l'heure, de cette catastrophe démographique que nous vivions. Mais n'y a-t-il pas aussi une catastrophe écologique? C'est-à-dire l'augmentation de la population mondiale ne fait-elle pas risquer un grand danger à la Terre? D'autant que s'il y a une transition démographique dans l'ensemble du monde, c'est vrai partout sauf en Afrique, où il y a une augmentation de la population absolument sidérante, Et donc, on est partagé entre la nécessité d'un renouvellement démographique et la nécessité aussi, dans le monde entier, de ne pas aller trop loin pour que la Terre reste vivable. François Héran.
Je partage effectivement l'inquiétude sur la... Enfin, nous découvrons que la Terre a des limites, que la Terre est un monde fini et qu'il faut absolument tenir compte, ce qui pendant longtemps n'était pas le cas. La Bible exaltait une sorte de progrès indéfini du peuplement à travers la Terre. Et bon, tout ça, c'est fini. Il faudrait quand même rappeler que l'argument comme quoi il faut faire moins d'enfants parce que c'est mauvais pour la planète est extrêmement problématique pour moi parce que, en réalité, ce qui compte le plus dans l'empreinte écologique, c'est le mode de vie. Et le facteur humain n'est qu'un facteur, mais pas le plus important. Et donc, si nous faisons croire que tout est une affaire d'homme, une affaire de nombre, à ce moment-là, nous nous exonérons du devoir principal qui est de modifier notre mode de vie, de faire en sorte que ce ne soit pas le mode de vie américain, pour faire vite, qui envahisse la Terre entière. Donc, il faut faire attention, quand on manie l'argument écologique, à ne pas considérer que ce n'est pas le nombre des hommes qui compte le plus, c'est le mode de vie.
Pour finir, Olivier Rey.
Oui, je suis d'accord avec ça. Et puis j'en reviens toujours à mes questions de taille. Je disais que le bien et le mal dans un phénomène ne tient pas tant à son essence qu'à sa ampleur et à sa vitesse. Et autant une certaine décroissance de la population mondiale peut être souhaitable si l'on veut tenir compte des limites physiques et naturelles de la Terre, autant un effondrement à certains endroits est quelque chose qui est dramatique.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cette conversation très éclairante. Alors, je rappelle, Olivier Rey, le titre de votre livre, « Des fécondités, ses raisons, sa déraison », il est publié chez Gallimard dans la collection Tract. François Héran, vous avez publié « Le temps des immigrés » et « Immigration, le grand déni » plus récemment.
2023.
Ces deux livres sont publiés aux éditions du Seuil, dans la collection La République des idées. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Roxane Nata. À la réalisation, Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Virginie Lorda.
Prendre un enfant dans ses bras.